C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Parlons de bébites d'insectes au Québec. Les apiculteurs subissent actuellement là une hausse historique de mortalité d'abeilles. Et c'est en phase avec ce qu'on a vu un peu partout dans le monde depuis quelques années et plus largement sur la planète. Mais le nombre d'insectes aurait diminué de moitié depuis 30 ans, selon une nouvelle étude. Comment ça s'explique et quel dommage ça peut occasionner? J'accueille Pierre Giovanezzo, professeur au département de biologie de l'Université Laval et spécialiste des sciences apicoles, les sciences des abeilles. Professeur, bonjour.
Bonjour.
D'abord, il me semble que ça fait plusieurs années qu'on entend parler de colonies d'abeilles qui sont décimées. Est-ce que le Québec avait été épargné jusqu'à maintenant?
Non, pas nécessairement. Je pense que la planète entière subit... nos abeilles de la planète entière subissent les contre-coups. On n'a pas été épargné.
OK. Là, résumé pour les gens qui nous écoutent, ce qui est arrivé à des apiculteurs québécois récemment.
Ben, ce qu'on apprend, puis ce qu'on savait un petit peu depuis une couple de semaines, que moi, avec mes contacts que j'ai dans d'autres provinces, là, il y a quand même une mortalité anormale qui semblait à l'horizon, là, il y a environ 3 semaines, et qui se concrétise là rapidement là dans les prochains, au cours des dernières journées. Et puis on va voir également au cours des prochaines semaines pour les parties, les endroits plus au nord un peu là. Mais il y a, à la suite de l'hiver, il y a toujours des mortalités des colonies d'abeilles parce qu'on les rentre au mois de novembre et on les soigne là avant de les entrer pour l'hiver. Donc, on les isole ou on les entre à l'intérieur. Puis quand arrive le mois d'avril, ben là, on ne sait jamais qu'est-ce qui sort. T'sais. Mais là, cette année, les taux de mortalité hivernale sont chez plusieurs apiculteurs désastreux, donc, malheureusement.
Est-ce qu'on sait, professeur, à quoi c'est dû?
Bien, on a une bonne idée parce que l'an dernier, vous savez, les abeilles ont des maladies comme n'importe quel animal, ils ont des virus, ils ont des bactéries, mais ils ont un crime de parasite qui fait du dommage. Là. C'est, le parasite, son nom, il lui va bien, il s'appelle Varroa destructor. C'est un acarien qui s'attaque aux abeilles, à leurs bébés et tout le kit. Et puis, il s'est arrivé au Québec, ça, en 97-98. Et puis, c'est un parasite qui nous arrive d'Asie, là. Et puis, il cause vraiment beaucoup de dommages au niveau planétaire dans toutes les colonies au monde. Et puis, on n'est pas épargné. Et puis, l'an dernier, ce parasite-là a eu une bonne année. T'sais, des fois, on a des bonnes années. Lui, il en a eu une bonne, là. Fait qu'il s'est multiplié beaucoup. Et on le savait déjà. Donc, déjà au mois de juillet l'an dernier, on disait, faites attention, les populations de varroa destructeurs sont élevées dans les colonies. Faut voir qu'on traite de bonne heure, faut qu'on traite. Fait que les gens étaient avertis, ont tout fait ce qu'ils devaient faire, les apiculteurs, et malgré ça, on voit que les traitements ont probablement pas très bien fonctionné. C'est ça, c'est ce qu'on voit. Là, on voit des mortalités chez des apiculteurs d'expérience, là. Des mortalités au-dessus de 50-60%, c'est ce qu'on voit maintenant.
Ouais. Pourquoi c'est important dans l'écosystème, les abeilles?
Les abeilles, dans notre écosystème, t'sais, tout le monde connaît les fleurs, les plantes à fleurs. Mm-hmm. Ben, les plantes à fleurs ont évolué avec les abeilles. Les couleurs des fleurs, les formes des fleurs, toutes les fleurs qu'on voit, toutes les plantes qui ont des fleurs et qui font des graines, ces fleurs-là, c'est pour les abeilles. C'est pour attirer les abeilles et parce que les abeilles rendent un service aux fleurs. Elles permettent la pollinisation, donc la fécondation. Les fleurs ont gagné en évoluant avec les abeilles et les abeilles, en échange, les fleurs, les plantes leur donnaient un nectar sucré, donc un cadeau de sucre, puis un cadeau de protéines, le pollen. Toute cette belle évolution-là, ce qu'on appelle en bio une coévolution entre les plantes à fleurs et les abeilles. Donc, vous posez la question sur l'avantage. C'est sans les abeilles, il y a bien des plantes qui font pas de graines, pas de fruits, là, dont les bleuets du Saguenay.
Mais je lisais ça sur le site du Journal Le Soleil aujourd'hui, professeur. Il semble-t-il qu'il y a des bleuets qui pourraient être moins goûteux, moins gros parce qu'il y a moins d'abeilles.
Ben, le plant de bleuet dépend à 90% sa fructification dépend à 90% des pollinisateurs.
Oui.
Et maintenant, les pollinisateurs les plus abondants dans nos champs de bleuets au Saguenay, ce sont les abeilles qu'on amène. Vous savez, on amène du Québec, là, il y a au-dessus de 30 000 colonies d'abeilles qui s'en vont au Saguenay à partir du mois de mai. C'est pour polliniser nos champs de bleuets. Après ça, ils vont dans les canneberges après. Je dis toujours qu'il y a comme un effet de domino, là. C'est pas juste le miel des abeilles, là. Ça a un impact majeur sur les bleuets, les canneberges au Québec. Puis si je vais dans l'Ouest, bien, pour faire des graines de canola, ça prend des abeilles aussi. Fait que les graines pour faire les semences de canola, ça vient de champs qui doivent être pollinisés par des abeilles. Fait que c'est l'impact est majeur là. Puis là, on parle pas des amandes en Californie puis des oranges tu sais dans le sud là. C'est tout ça là.
Si les abeilles disparaissaient complètement, est-ce que c'est vrai qu'on aurait de la misère à faire pousser une grande partie des fruits et des légumes qu'on consomme?
Ouais. Je vais répondre à votre question avec d'une autre façon. Je veux dire, si les abeilles disparaissaient, je pense que nous, on serait pas là ben longtemps non plus.
OK. C'est le canari dans la mine.
Ouais, c'est souvent, ils sont souvent décrits comme ça. Mais vous savez, on parle des abeilles domestiques. C'est sur quoi je travaille, moi, depuis 30 ans, là. L'abeille domestique, elle est gérée par un apiculteur. Elle a de l'aide, tu sais. Mais il y a des abeilles sauvages. Eux autres, ils ont they're on their own, tu sais, ils ont rien là, tu sais. Fait quand on augmente les centres urbains ou quand on fait de la déforestation, ou tu sais, je veux dire là, on brise les maisons des abeilles sauvages. Ben c'est tout l'écosystème qui mange une débarque. Là. Ouais.
Hey, c'est vraiment fascinant de parler d'abeilles. Merci de vous être rendu disponible, professeur.
Ça m'a fait plaisir.
À la prochaine. C'était Pierre Giovenazzo. Giovenazzo qui est professeur au département de biologie de l'Université Laval, spécialiste des abeilles.
Patrick Lagacé en accéléré.
Si je vous dis 18 nuances de gay et non pas de gris, ça vous dit peut-être pas spontanément grand-chose, mais si je vous dis les boules colorées suspendues au-dessus de la rue Sainte-Catherine pendant des années dans le village gay, là, j'imagine que ça vous sonne une cloche. Ben, c'était une idée de Claude Cormier et Associés. C'est une firme d'architecture de paysage et de design urbain basée à Montréal. L'équipe de Claude Cormier a conçu plusieurs projets au Canada, aux États-Unis, des places publiques, des parcs, et c'est son équipe qui a conçu le projet L'Anneau sur l'esplanade de la place Ville-Marie. Une installation qui, dit-on, se veut une sorte de porte d'entrée sur le centre-ville à la faveur des rénovations à la place Ville-Marie. Claude Cormier, architecte paysagiste, est au bout du fil. Salut, Monsieur Cormier.
Bonjour.
Écoutez, j'ai vu les images de synthèse de l'anneau, Monsieur Cormier. Je trouve ça super beau, super intriguant, mais décrivez donc ça pour nos auditeurs dans vos mots.
Bon, mais c'est un anneau qui fait 30 mètres de diamètre, fait en acier stainless, avec une grosseur de 80 cm, et qu'on vient installer, qui va flotter au-dessus du nouvel emmarchement à la place Ville-Marie, qui est dans l'axe là, de McGill College, et qui fait partie du plan de revitalisation de l'esplanade et de la place Ville-Marie. Puis on vient coiffer tous ces travaux-là avec cet anneau qui va flotter dans l'espace qui est disponible, qui est un espace de 30 mètres de diamètre. Et nous, on vient insérer cet anneau-là à 10 cm de chaque côté du bâtiment, ou 3 mètres au-dessus du passant, et qui va mettre en œuvre tout l'axe de McGill College avec le Mont-Royal en arrière-plan de Homestead, la petite Croix-Blanche, une légende de Montréal, le Royal Victoria en arrière-scène, l'Université McGill, puis tout le corridor des bâtiments là, de bureau et commercial de l'Axe McGill College. Et on vient célébrer aussi le 60e anniversaire de la place Ville-Marie et du retour au centre-ville après 2 ans de pandémie.
Ça frappe l'imaginaire parce qu'on parle d'une œuvre de 50 000 livres. Écoutez, question bien, bien pratique. Comment vous allez faire tenir ça?
En effet, puis on a en dessous aussi le REM qui passe justement. Oui. Là, donc c'est on vient s'installer dans le bâtiment sur les structures de plancher et de plafond à 2 points de chaque côté des bâtiments Et ce qui est intéressant, c'est le même ingénieur en structure qui a conçu ces bâtiments-là il y a 60 ans, Franz Noll, avec qui on travaille, un icône ingénieur en structure, et qui vient effectivement, qui travaille avec nous là-dessus pour faire cette prouesse structurale, et on va vraiment avoir l'impression que cet anneau-là flotte. Et à l'intérieur de ça, il y a des systèmes de chauffage pour éviter glace, la formation de glace, de verglas, parce qu'avec les changements climatiques, ce que nous avons vécu en 98, ça peut peut-être revenir, hein, effectivement. Donc, on a, pour des questions de sécurité, cet anneau-là va être chauffé. Alors, il y a quand même un paquet de prouesses, mais on va vraiment avoir l'impression qu'il flotte et il sera éclairé aussi par une lumière blanche, chaude, tamisée. On veut pas de Vegas, là. Ça va être vraiment dans un esprit sophistiqué et qui vient comme marquer le retour au centre-ville et quelque chose de dynamique et de permanent.
C'est quoi le but d'une œuvre comme ça, comme l'anneau?
Ben l'anneau, c'était nous, on est venus, on était les derniers à intervenir dans ce plan de revitalisation. Et l'escalier était en construction et on venait de terminer la restauration des façades. Donc, on devait créer quelque chose qui était aérien, qui flottait, mais qui n'allait pas déranger les éléments de construction en cours ou qui venaient de se compléter. Et on voulait que ce soit monumental et puissant. Donc, on est arrivé avec cet anneau-là, une forme circulaire qui était à l'opposé de toutes les formes cartésiennes du plan de Henry Cobb, qui est l'architecte qui a conçu la place Ville-Marie au début des années 60. Alors, c'est un genre de geste, pas en opposition, mais en yin et yang, qui fait que ça fait vraiment un tout excessivement cohérent. Et lorsqu'on a présenté ça à Ibino Cambridge, le client, le mandataire de ça, ça a été un coup de cœur, un coup de foudre, je dirais. Et tout le processus s'est très bien enclenché. Ça fait 2 ans qu'on est là-dessus. C'est quand même, il y a des prouesses là, difficiles à rencontrer, mais on y arrive. Et au mois de juin, là, on va voir cet anneau-là s'ériger dans l'axe McGill College, très bien visible de la rue McGill, de la rue Sherbrooke ou de la rue Boulevard René-Lévesque. Donc, il devrait prendre sa place et devenir durable au centre-ville.
C'est une œuvre qui, vous l'avez dit, là, c'est commandé par Venoé Cambridge. La Chambre de commerce de Montréal contribue, le gouvernement du Québec aussi. Ça coûte 5 millions. Écoutez, moi, j'ai vu ça. Je trouve ça magnifique. J'ai hâte de voir le résultat final, M. Cormier. Mais j'ai vu quelques commentaires quand même là, qui disaient, ouais, 5 millions pour ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir quelque chose de beau à cette place-là?
Ben, à quoi ça sert d'avoir quelque chose de beau? Si on n'a rien de beau, je pense que l'idée de la beauté, c'est quelque chose qu'on dévalue souvent. Mmh. Mais je crois que la valeur est quand même associée à quelque chose de... Tous les gens ont un rapport à la beauté, quoi que ce soit. Oui? Mmh. Donc, de créer une œuvre qui peut sembler inutile, oui, mais je pense que c'est pas si inutile que ça de créer un envoûtement, de créer une énergie positif, de créer quelque chose de rassembleur, de créer un point de repère qui montre aussi la vitalité, notre créativité. Je pense que ça a une valeur qui dit beaucoup plus que 5 millions d'un élément accroché. Et c'est un cadeau, je dirais, hein, aux Montréalais, aux touristes, aux gens qui travaillent au Porto. C'est quand même un élément qui devient un point de discussion, un point de ralliement. Mmh. Et si on n'a pas ça dans nos villes, on va vivre dans du beige, puis qu'il n'y a pas d'énergie, puis l'énergie, ben je pense qu'on en a besoin, puis on est sensible à ça, et pour moi c'est un besoin essentiel d'avoir de la beauté, puis avoir des éléments qui nous qui peut créer des éléments de discussion. Moi, ça me dérange pas que les gens ne soient pas tout en fait en accord avec ça, mais ça crée effectivement ces éléments de rassemblement essentiels. Hein, on parle d'un Guy Lafleur, là, ça rassemble quand même, là, c'est juste un individu. On en a plein de ces éléments-là, montréalais, puis si on est capable de l'affirmer à nos touristes, aux médias, que Montreal is back, right? On est là.
Ben, très intriguant. J'ai très hâte de voir ça. Merci d'avoir été avec nous, M. Cormier.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
À la prochaine. C'était Claude Cormier de la firme Claude Cormier et associé, architecte. Et les images de synthèse sont très belles. Et je sais, il y a toujours de la controverse quand on dépense de l'argent pour des installations urbaines comme ça. Là, souvenez-vous, quand on a décidé d'illuminer le pont Jacques-Cartier, beaucoup de gens qui disaient « Ouais, c'est inutile. » Moi, je trouve que le coup d'œil est beau et c'est ce qui contribue aussi, pas juste à la signature auprès des touristes, mais c'est ce qui contribue à rendre la ville, disons, plus belle aussi et plus vivante. Vous allez voir ça là, dans vos médias là, imprimés. Ça frappe l'imaginaire, un énorme anneau, 30 mètres de diamètre. Ça a l'air simple, mais ça a l'air très, très beau. On va pouvoir voir ça très bientôt. Place Ville-Marie. Les parents qui sont aussi des militants anti-vaccins, des gens qui ont des doutes sérieux, pour ne pas dire des scepticismes face à la pandémie et au virus, ben ils ont généralement été déboutés devant les tribunaux dans des histoires de vaccination de leurs propres enfants. Vous connaissez le classique, là, il y a un parent qui veut faire vacciner, l'autre veut pas faire vacciner. Parfois, ça se règle devant les tribunaux et un peu partout au Canada, pas juste au Québec. On y va pour le meilleur intérêt de l'enfant. Si l'enfant n'a pas de condition particulière là, qui rend la vaccination dangereuse, ben les juges d'habitude disent « on fait vacciner l'enfant ». Là, il y a une juge qui a fait vacciner, qui a autorisé la vaccination d'une enfant à Montréal et qui est allée un pas plus loin. On va parler de tout ça avec Maître Marie-Annick Wash, avocate spécialisée en droit de la famille et aussi ex-présidente de l'Association des avocats en droit familial du Québec. Maître Wash, salut!
Bonjour.
Donc, dans ce cas-ci, là, le père s'est vu interdire le droit d'amener sa fille dans des manifs anti-vax et il peut même plus parler de ses théories devant elle. Est-ce que ça détonne dans la jurisprudence?
Je vous dirais que c'est que depuis le début de la pandémie, la jurisprudence est pas mal claire là-dessus. Et le principe étant la prudence, je vous dirais. Les juges ont été assez consistants là, depuis le début et ont toujours permis la vaccination. Pour ce qui est de ne pas amener des enfants dans des manifestations puis aller un petit peu plus loin, il y a la juge Nathalie Pelletier qui a rendu une décision très, très semblable là, au début du mois d'avril dans le district de Québec. Donc, ça me surprend pas.
Mais la décision semblable, il me semble qu'à Québec, c'était de ne pas traîner l'enfant dans des manifs. Il me semble que c'était pas de pas tenir des propos anti-vax devant l'enfant, non?
Ça allait jusqu'à dire que l'enfant, parce que celle-ci, je viens de la lire là, justement oui. Pour en préparation, ça allait jusqu'à dire devant l'enfant que c'était pas approprié qu'il soit dans les manifestations, mais certainement pour pas entendre les propos qui sont tenus dans les manifestations, tant au niveau des propos négatifs contre le gouvernement ou les propos anti-vax. Donc, ça me surprend pas tellement. En fait, ça me surprend pas du tout là, que la juge est allée jusque-là.
Ah, écoutez, je l'ai dit souvent depuis 2 ans, là, je suis pas mal contre les vues de ces gens-là, mais c'est quoi la ligne entre la liberté d'expression puis l'intérêt de l'enfant? Dans le fond, un parent... On pourrait aussi dire qu'un parent qui est très, très investi dans la religion, ça nuit à son enfant aussi.
Ben vous savez, c'est des intérêts qui s'opposent, je vous dirais, la liberté d'expression comme la liberté de religion. Puis il faut faire attention à ces principes-là qui s'opposent. Mais en même temps, les juges dans les derniers mois ont été très, 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 je vous dirais, conservateurs par rapport à la pandémie puis par rapport à tout ce qui gravite autour de ça. Et j'ai l'impression, puis c'est mon opinion personnelle, j'ai l'impression qu'ils veulent tout simplement protéger l'intérêt supérieur des enfants, surtout quand un des deux parents s'entendent pas. Évidemment que dans les cas où les deux parents s'entendent, ben ça se retrouve pas devant les tribunaux. Dans les cas où les deux parents ont vraiment des propos opposés ou des opinions opposées, ça cause un problème là, au niveau de l'autorité parentale.
Mais sur la vaccination, à moins que je me trompe, là, je le disais d'entrée de jeu, dans la vaste majorité des cas au Canada, les juges ont penché en faveur de la vaccination de l'enfant. nonobstant une, à moins qu'il y ait une condition médicale là, qui rend ça dangereux, je me trompe?
Exactement, exactement. Non, vous ne vous trompez pas.
OK, mais généralement, est-ce que c'est fréquent que des juges disent à des parents, vous n'avez pas le droit de parler de tel sujet devant votre enfant?
Oui, oui.
Oui?
Bien, fréquent. Je vous dirais que ça fait partie de l'autorité parentale. Et quand ça vient à être présenté devant un juge, c'est les cas les plus extrêmes. Là. Vous comprenez que c'est pas des... Premièrement, quand on parle de partage de l'autorité parentale, les deux parents ont ce droit-là à l'égard de leurs enfants. On carte blanche, dans le fond, là, de transmettre leurs valeurs, etc., etc. Mais quand ça se retrouve devant les tribunaux, c'est parce qu'il y a vraiment un problème entre les deux versions de chacun des parents et qu'une des prétentions des parents ou des opinions des parents pourrait brimer aux droits de l'enfant.
OK, Maître Wash, vous me dites que c'est quand même fréquent que des juges disent à des parents dans des décisions de ne pas parler à leurs enfants de certains sujets. Comme quel sujet? Qu'est-ce qui vous vient en tête dans le passé?
Le plus important, c'est le litige entre les parties. Les juges ordonnent ça fréquemment ou recommandent ça fréquemment aux parents de pas parler de ce qui se passe entre les parties, de pas mettre l'enfant dans le milieu du conflit. Vous savez, non seulement si un des parents discute de quelque chose qui est hautement contesté par l'autre parent, non seulement ça remet en question l'opinion de ce parent-là, mais ça remet en question aussi l'autorité parentale de l'autre parent. Quand les gens sont pas sur la même longueur d'onde, au niveau de l'enfant, ben l'enfant se retrouve dans le milieu, puis c'est pas lequel a raison, parce que vous comprenez, il croit son parent de façon inconditionnelle. Là. Alors oui, les juges, dans les cas extrêmes, se permettent, mais pour ce qui est du litige entre les parents, c'est pas nécessairement un cas extrême. Dans ces cas-là, se permettre d'aller un petit peu plus loin pour s'assurer que l'enfant n'est pas, je vous dirais, perturbé par des propos qui le mettraient en conflit de loyauté aussi avec l'autre parent.
C'est
un peu plus complexe.
Oui, je comprends ça. J'évoquais tantôt la religion et là, la messagerie est ouverte, les gens m'écrivent en même temps qu'on se parle, vous et moi, Maître Wash, et il y a des gens qui me disent, est-ce qu'on peut appliquer le même raisonnement à propos des religions? Tu sais, il y a deux parents qui peuvent se séparer. Un des parents qui tombe dans une dynamique, disons, plus sectaire dans une religion. Est-ce que là, est-ce que les tribunaux ont déjà été appelés à trancher dans des cas semblables?
Ben, effectivement, de mémoire, là, la Cour suprême a déjà tranché à plusieurs reprises dans des cas comme ça. Puis la liberté de religion est toujours respectée. Quand les tribunaux, je vous dirais, dans les niveaux, pas en Cour suprême, mais en Cour supérieure, etc., parce que c'est ici, en droit de la famille, que ça se passe en Cour supérieure, ben les tribunaux vont voir si c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant d'aller, par exemple, à l'église ou dans des célébrations, suivre leurs parents, mais c'est vraiment du cas par cas.
Vraiment
toujours
intéressant.
En respectant la liberté de religion de chacun des parents, même si un des deux parents n'est pas dans la même religion que l'autre ou de même a pas les mêmes valeurs, je vous dirais.
Vraiment intéressant. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous, Maître Wash.
Fait plaisir.
À la prochaine, c'était
bonne journée.
Maître Marie-Annick Wash, avocate spécialisée en droit de la famille. Donc, un père, vous l'avez entendu, qui voulait pas que son enfant se fasse vacciner. Le tribunal a tranché du côté, disons, où on tranche généralement dans ces litiges-là, c'est-à-dire qu'on y va avec l'intérêt de l'enfant. Est-ce que la santé publique dit que c'est bon pour l'enfant de tel âge d'être vacciné? Oui. Le juge donne le feu vert. Là, ce qui est un peu différent, c'est que, justement, dans ce cas-là, le père ne pourra plus tenir de propos complotistes anti-vax devant son enfant.
Patrick Lagacé, en accéléré.
On est à 5 mois des élections provinciales. Il y a un nouveau parti politique là, qui vient de voir le jour. Et il s'agit du Parti canadien du Québec. Et Colin Standish, son porte-parole, est avec nous. Je cite le communiqué de presse. « Le temps est venu d'offrir une voix aux marginalisés, notamment aux Québécois qui se sentent trahis et abandonnés par la CAQ et par le Parti libéral du Québec. » Monsieur Standish, bonjour.
Salut, M. Lagacé.
Dites-moi, qu'est-ce que vous ambitionnez de faire? À qui vous parlez au Parti canadien du Québec?
Bien, on essaie de communiquer avec tous les Québécois et Québécoises. On est vraiment enracinés dans la communauté anglophone et la communauté minoritaire et autochtone, mais on veut communiquer avec les Québécois de la langue française qui ont besoin d'un nouveau parti politique. On a fait un communiqué de presse aujourd'hui avec nos six principes fondateurs de la Parti canadien du Québec, qui est fondé sur les droits humains, les respect de nos constitutions canadiennes, le bilinguisme, puis le choix en matière d'éducation et puis je pense que la prospérité pour l'ensemble des Québécois et le rapprochement, la réconciliation, c'est vraiment important pour tous les Québécois.
Qui vous déçoit le plus, la CAQ ou le Parti libéral du Québec?
Bien, pour nous, on va verser pour tous les votes autour de Québec. Puis, pour nous, avec le Parti libéral du Québec, le PLQ, on a vraiment abandonné les communautés anglophones et minoritaires. Vraiment pas une voix de les circonscriptions qui votent pour la plupart de leurs députés à l'Assemblée nationale. Puis, on a besoin d'une autre option pour mieux bâtir pour les droits linguistiques et minoritaires ici à Québec.
Expliquez aux gens qui nous écoutent, là, qu'est-ce que vous considérez comme une trahison du PLQ?
Ben, ça fait des décennies, mais juste au moment, on voit avec les questions fondamentales comme la loi 96, qui l'ont, ça prend 10 mois et demi pour avoir une politique de la PLQ, puis dans ce temps, on a fait ce loi honteuse, elle a fait plus pire dans les commissions et comités à l'Assemblée nationale de comment on voit le resserrement à les CGEP pour les anglophones, puis aussi la loi 96 est vraiment une loi qui va changer la vie dans une façon néfaste pour tous les Québécois, pas pour juste les anglophones, les francophones, les néo-québécois, puis les communautés autochtones aussi.
À la fin des années 80, Robert Bourassa avait invoqué la clause non-obstant pour contrer une décision sur l'affichage par la Cour suprême. Ça avait beaucoup choqué la communauté anglophone. Il y a un parti qui était né de cette colère-là, le Parti Égalité, le Equality Party. Est-ce que le Parti canadien du Québec est la version 2.0 du Equality Party?
Non, pas du tout. On voit, moi et les autres dans mon comité, le comité exploratoire, puis le nouveau Parti canadien du Québec, on voit pas comme une partie égalité 2.0 entre nous autres. C'est vraiment, on est basé sur les droits pour les minorités et les droits linguistiques pour les anglophones et les francophones, mais on voit pas comme juste comme une partie de la île d'Ouest de Montréal, pas juste pour les anglophones dans Montréal, ou moi je viens des cantons de l'Est. En vrai, elle veut vraiment avoir un nouveau paradigm pour les droits linguistiques, les droits fondamentaux et aussi les prospérités de tous les Québécois, de laisser les anciens débats ici à Québécois entre les souverainistes et les fédéralistes, la droite et la gauche, pour avoir une mieux société pour tous les Québécois. C'est ça qu'on voulait.
Est-ce que vous trouvez que le Parti libéral du Québec a fait son temps?
Oui, bien, je pense que Mme Anglade et les autres vraiment, pas vraiment être en représentation de les rêves puis l'avenir des Québécois. Je pense qu'il y a vraiment pas des racines à ce moment avec la plupart des Québécois.
Mais vous savez que le Parti libéral du Québec est dans une position difficile, là. Par exemple sur la loi 21, sur la loi 96. On veut pas déplaire aux francophones qui sont en faveur de ces lois-là, mais on déplaît forcément à plusieurs anglophones et à plusieurs personnes des minorités aussi.
Oui, ben je pense que c'est nécessaire d'être basé sur les principes, mais ça c'est important pour le PAQ, n'ont pas fait ça, ben d'expliquer, je pense qu'à expliquer à les francophones que la loi 21, c'est pas la vraie laïcité, c'est discriminer contre les jeunes et c'est pas vraiment une base d'un État laïque. Je suis pas un État laïque, c'est sûr, mais c'est pas la bonne façon de discriminer contre les personnes qui habillent dans notre façon que nous, puis dans notre voie, de protéger la langue française, de promouvoir la langue français, c'est un atout, c'est une bonne chose d'avoir le français comme une droit pour tous les Québécois, mais de faire ça dans une façon néfaste qui divise les Québécois puis pénaliser les minorités et les anglophones, c'est pas une façon de faire. On a besoin d'une nouvelle façon de faire et je pense que c'est pour tous les politiciens d'avoir une autre façon de faire ici à Québec.
Monsieur Standish, vous êtes le porte-parole du Parti canadien du Québec. Vous voulez être présent aux prochaines élections. Écoutez, il y a 125 circonscriptions électorales au Québec. On on est à 5 mois des élections. C'est une grosse commande là, de présenter 125 candidats-candidates.
Bien sûr, oui. On a un plan pour une stratégie pour 125 circonscriptions, puis aussi on a une base dans la région de Montréal, des cantons de l'Est et l'Outaouais et Pontiac, mais on peut communiquer avec tous les Québécois. Ils présentent la plupart des candidats possibles. On a travaillé sur ça, le communauté exploratoire. Elle est partie depuis novembre. On est prêt pour avoir des débats. On est prêt pour dévoiler nos idées et prêt de présenter les candidats autour de Québec.
Le Parti canadien du Québec, les initiales, c'est PCQ. Il y a déjà un PCQ qui est le Parti conservateur du Québec. C'est un peu confusing, comme on dit dans votre langue.
Oui, bien sûr. C'est PACQ, c'est Parti canadien du Québec. On utilise le PACQ, c'est notre acronyme.
OK, vous mettez le A de parti.
Oui, c'est ça. On essaie de faire ça, oui.
OK, c'est un peu particulier quand même.
Oui.
OK, parfait. Allez-vous être le chef?
Ben, on va dévoiler le chef dans les prochaines semaines. On va démarquer nos lancements de campagne. Ça va être dans quelques semaines, nos dévoilements de chef, dévoilement des candidats vedettes. Ça vient dans mai de 2022.
Ouais. OK. Ballarama Holness, qui est l'ancien candidat à la mairie de Montréal, a déjà laissé flotter l'idée de lancer un parti. Est-ce qu'il est dans votre mouvement?
Non, pas du tout. Je pense que M. Holness a essayé de fonder une partie il y a une semaine. Puis je sais pas, j'ai eu des contacts avec lui depuis son campagne électorale un petit peu, mais il fait son projet. Je fais mon projet avec mon équipe. C'est pas juste moi, mais c'est ça. On fait des différents projets et puis j'ai bonne chance à lui.
Ben merci M. Sandich. On aura l'occasion de s'en reparler.
Merci, M. Lagacé.
Bonne journée. C'était Colin Standish, avocat des cantons de l'Est, et vous l'avez entendu, porte-parole du PACQ, le Parti canadien du Québec, qui ambitionne de présenter des candidats aux prochaines élections.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.